vendredi, Juma Mubarak. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Jigenu Diaspora Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maguette Nian, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Maggie Chou. C'est une jeune Sénégalaise. Elle est fondatrice de la compagnie de voyage Sunu Trip. Elle est CEO aussi de la compagnie de marketing digital LinkU Digital. Elle a commencé son parcours entrepreneurial très jeune et j'ai le plaisir de discuter avec elle aujourd'hui. Bienvenue. Maguette, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Dalalak Jam.
Merci, Kodou. Plaisir partagé et merci vraiment pour l'invitation.
Tout le plaisir est pour moi. Alors, juste pour que nos auditeurs puissent mieux te connaître, est-ce que ça te dérangerait de te présenter en quelques mots?
Avec plaisir. Alors, moi, je m'appelle Maguette Nian, j'ai 25 ans et je suis entrepreneur ici au Sénégal. Donc, je suis la fondatrice de Sunu Trip, qui est une agence de voyage qui propose des excursions pour visiter le Sénégal et d'autres pays alors de l'Afrique. Et actuellement aussi, je suis en même temps freelance en community management.
D'accord, d'accord. Donc, il me semble que tu es CEO de deux entreprises, n'est-ce pas? Tu avais une entreprise de marketing digital, LinkU, et aussi Sunu Trip en même temps.
Oui.
À ton, like, tu es très jeune, 25 ans. Mashallah, tu as déjà créé deux entreprises.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a poussé dans le monde de l'entrepreneuriat? Et à quel âge exactement t'as commencé?
Alors, j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 22 ans. Donc, ce qui m'a poussé à créer Sunu Trip, c'était plus via les réseaux sociaux. Donc, moi, comme je suis une personne qui aime bien voyager, découvrir de nouveaux sites, donc j'ai commencé à parcourir le Sénégal. Et c'est grâce à ça que les gens donc ont commencé à me poser des questions. Est-ce que tu peux me donner des bons plans, logement ou le transport, activité? C'est pour ça alors que j'ai créé une agence, l'agence Sunu Trip, donc pour pouvoir proposer des packages, que ça soit des journées ou bien des week-ends, pour pouvoir proposer ça au grand public qui veulent voyager et qui veulent pas partir seuls. Et pour l'agence de marketing digital, donc moi j'ai toujours été passionnée de marketing digital. Je n'ai pas fait cette formation là, mais j'ai fait des certifications pour pouvoir avoir les bases. Et j'ai travaillé aussi dans des agences pour pouvoir avoir de l'expérience. Et je me suis dit que je vais créer cette agence-là. Donc, en même temps, on fait le marketing digital pour les entreprises et les marques pour gérer leurs pages. Mais en même temps aussi, il y a le marketing d'influence. Donc, pour les influenceurs, pour les permettre de bien travailler avec des marques et qui peuvent les aider à bien s'en sortir. Voilà.
D'accord. Donc, en fait, une agence, en même temps, une agence d'influenceurs où ton équipe et toi, vous allez chercher des contrats pour les influenceurs ou est-ce que vous gérez leurs contrats actuels, négociations et tout ça?
Oui, c'est ça. Donc, on fait les deux. Donc, pour les influenceurs, on prend des influenceurs qui vont s'inscrire dans l'agence comme étant partie de l'agence. Donc, on leur trouve des contrats avec des marques et tout. Des contrats qui correspondent à leur univers. Et en même temps aussi, on gère tout le partenariat, que ça soit donc les idées, la campagne, et même après avec tout ce qui est les statistiques, pour voir si la campagne a bien marché ou pas.
D'accord, ok. Et donc, tu disais que tu as eu à faire des certifications, mais à la base, c'est quoi ton parcours?
Alors, à la base, j'ai fait un baccalauréat littéraire. Après, je suis entrée à l'École supérieure polytechnique de Dakar où j'ai obtenu un DUT en technique de commercialisation et une licence en marketing affaires internationales.
Ok, d'accord. Donc, plus centré business, en fait.
Oui.
Super, super. Parle-nous un peu de Sunu Trip. Pourquoi le choix d'une entreprise dans le secteur du tourisme?
Alors, je me suis lancée dans le tourisme parce que je suis vraiment très, très passionnée donc, de tout ce qui est voyage. Donc, même avant que je ne crée l'agence, j'étais sur Internet, je regardais les endroits qu'on peut visiter ici au Sénégal parce que ici au Sénégal, en fait, nous avons un très, très beau pays. Et malheureusement, il y a quelques années de cela, peut-être 2 ou 3 ans, donc les personnes ne connaissaient pas l'existence de ces endroits-là. À chaque fois que les gens avaient des vacances, donc ils préféraient aller à l'extérieur parce qu'ils n'avaient pas connaissance des endroits qui se trouvent ici, comme la Casamance ou bien le Sim Saloum ou bien même le nord où il y a le désert de l'Ampoule. Donc, je me suis dit que vraiment, ce serait bien donc, de créer cette agence-là pour montrer à tout le monde que l'on peut faire un safari au Sénégal, que l'on peut voilà, dormir dans le désert ici, que l'on peut visiter des îles aussi, comme le Sin Salou. Donc, c'est pourquoi je l'ai créé.
C'est vrai qu'on a un pays tellement beau et bourré d'endroits magnifiques, mais très souvent très peu connu par les Sénégalais eux-mêmes, y compris moi-même. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Dubaï où il fait, je sais pas moi, 45 degrés ou souffrir dans la chaleur, transpirer. On a tout ça chez nous et c'est vrai qu'il faut que le tourisme soit plus valorisé, qu'on puisse découvrir le Sénégal et puis aussi ses sources de développement. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ce secteur plus? C'est vrai que le Sénégal est connu, surtout en Europe, pour être une destination en vacances. Ça commence à l'être un peu plus dans d'autres pays qui peut-être avant ne pensaient pas au Sénégal en premier quand ils pensaient vacances. À ton avis, qu'est-ce qui peut être fait pour encore plus promouvoir la destination Sénégal?
Moi, je pense qu'il y a vraiment le potentiel qui est là. Certes, on a des attractions ici que l'on peut faire, mais je pense que l'État, peut-être, ou bien d'autres personnes, pourraient créer d'autres attractions donc qui pourraient propulser encore le tourisme. Et en plus de ça, il y a les hôtels, donc les établissements hôteliers. Je pense que, comme moi, d'autres personnes vont le remarquer que parfois, les hôtels sont assez chers. Donc, plus aussi pour le Sénégalais lambda, parce que moi, je prône beaucoup le tourisme local pour que les Sénégalais puissent visiter leur propre pays. Mais parfois, il y a le frein donc du prix. Parfois, on veut aller dans tel ou tel hôtel faire 2 nuitées ou 3 nuitées. Mais le problème, c'est que c'est assez cher pour une seule nuitée. Donc, parfois, c'est décourageant pour les personnes qui veulent faire ce tourisme-là. Donc, peut-être pour le développer encore plus, peut-être les hôtels pourront revoir leurs tarifs un peu à la baisse pour les locaux au moins, pour pouvoir les inciter à plus voyager dans le pays.
C'est clair que bon, c'est pas donné, hein. Et les moyens du Sénégalais lambda ne sont pas les mêmes que les touristes qui viennent de l'extérieur. Donc, si les tarifs sont pas abordables, c'est sûr que les gens ne pourront pas en bénéficier. Donc, pour ce Nutrip, qu'est-ce que tu proposes? Quels sont les services que tu proposes aux gens? Quel type d'excursion pour qu'on puisse plus savoir de ce que tu offres?
Alors là, actuellement, sur notre trip, ce qu'on propose, ce sont des journées. Donc, on peut venir dire le samedi 12 octobre, on va à la réserve de Banja, donc avec un tarif bien défini. Donc, les personnes qui sont intéressées peuvent venir s'inscrire. Et on va partir en groupe avec d'autres personnes. Donc, c'est un moyen de rencontrer d'autres personnes. Il y a aussi un autre service qui est le voyage sur mesure. Donc, ce service peut intéresser des familles, des groupes d'amis, des personnes qui veulent voyager ensemble, mais contre eux. Donc, on leur propose tout un circuit qui répond à leurs besoins. Donc, ce sera selon leurs envies, ce qu'ils veulent faire, selon leur budget aussi et le nombre de jours qu'ils veulent le faire. Donc, on leur propose ce circuit sur mesure-là. Et en troisième service, nous avons les team building pour les entreprises. Donc, qui veulent raffermir des liens pour leurs employés. Donc, nous proposons donc des journées, des week-ends aussi pour ces entreprises-là. Donc, avec tout compris, avec des animateurs, des coachs et tout, pour pouvoir satisfaire à ses besoins.
D'accord. Et donc, toi, tu travailles, je suppose que quand tu bosses avec les acteurs du tourisme, les hôtels et tout ça, tu as des tarifs préférentiels en place, parce que sinon, après, tu pourrais pas être profitable, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, effectivement. Donc, dans chaque hôtel, ou bien ceux qui proposent des activités, les transports, tout ça, donc avec l'agence, on a pu négocier des tarifs préférentiels pour pouvoir bien s'en sortir.
D'accord. Et donc, tu as, je sais pas si c'est cette année, tu as lancé Sounoutrip Maroc, il me semble?
Oui.
Pourquoi le Maroc? Et parle-nous un peu de ce nouveau projet de Sounoutrip Maroc.
L'année dernière, j'étais partie au Maroc. Donc, en fait, je travaillais beaucoup sur Sounoutrip et tout. Et à un moment, j'ai été en burn-out par rapport au travail. Donc, je me suis dit que ça me ferait du bien de sortir un peu du Sénégal et de visiter le Maroc. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai pris mon billet. Je suis partie au Maroc. Et normalement, je devais faire là-bas un mois et quelques, mais ils ont fermé leurs frontières dû à la crise sanitaire. Donc, j'en ai profité pour pouvoir visiter le pays, donc aller dans d'autres villes. Et j'ai découvert que c'était un magnifique pays avec un potentiel touristique énorme. Et quand j'étais là-bas, j'ai reçu beaucoup de messages de Sénégalais donc, qui étaient au Sénégal, qui me demandaient est-ce que je propose le Maroc. Et aussi des Sénégalais qui sont au Maroc aussi, qui seraient intéressés par des week-ends dans d'autres villes, vu que je fais ça déjà au Sénégal. Donc, quand je suis rentrée, je me suis dit que je vais mettre en place ce projet-là en parallèle avec Sono Trip ici au Sénégal. Donc c'est pourquoi je l'ai lancé pour pouvoir faire des packages pour le Maroc pour le faire visiter.
C'est vrai que le Maroc, c'est un très beau pays. Moi, je suis allée une fois. Bon, j'ai pas fait beaucoup de villes. Hein. J'étais à Marrakech, je suis allée à Essaouira, il me semble. Et puis, c'est à peu près tout, mais c'est très joli. Par contre, point de vue, collaboration, tu es une jeune sénégalaise, pas forcément marocaine. Je sais pas, tu as dû avoir peut-être des challenges pour t'installer et créer ta propre boîte. Parle-nous un peu de ton process.
Oui, effectivement, parce que là-bas, en fait, le principal souci, je dirais, c'est la langue, parce que pas mal de personnes, peut-être, qui gèrent des activités là-bas, donc ils ne parlent peut-être pas très très bien le français, donc ça, c'est une barrière, mais en même temps aussi, le fait que je sois une personne jeune, donc qui vient les voir pour leur dire que oui, je viens pour avoir une collaboration avec vous. Donc ça aussi, ce n'est pas facile du tout. Donc c'est pourquoi je dois y retourner là pour pouvoir avoir plus de collaboration et pouvoir proposer ces packages-là.
D'accord. Et donc au Sénégal, toi, tu as créé ta boîte très jeune. On sait que créer une entreprise, mettre en place une structure, c'est pas très facile. Ça s'est passé comment pour toi? Point de vue financement, point de vue administratif, est-ce que c'était facile? As-tu eu à faire face à des challenges? Parle-nous un peu de la création d'entreprise en elle-même.
Alors, la création d'entreprise ici au Sénégal, c'est pas facile parce que pour avoir la bonne information, c'est très, très difficile. Donc, parfois, on va demander une information, on ne nous dit pas tout. Donc, on est obligé de demander jusqu'à 3 ou 4 personnes pour avoir la bonne information. Et en même temps, moi, j'ai pu créer l'entreprise facilement. Donc, quand je suis partie à la chambre de commerce, j'ai pu le créer et tout. Mais le principal problème que je rencontre ici au niveau du secteur du tourisme, c'est l'agrégation parce que quand on est dans le tourisme, on doit avoir un agrément pour dire que oui, on a le droit donc d'amener des clients visiter le Sénégal ici au Sénégal, voilà. Donc cet agrément là est très très cher. Donc, on a donné 5 millions.
5 millions.
On doit avoir des bureaux. Oui, 5 millions, on a donné ça. On va pas nous le rembourser. Donc, c'est de
ce l'argent. Que j'allais dire. C'est tu donnes ces 5 millions à qui?
Au ministère.
Au ministère du tourisme.
Du tourisme, voilà.
OK. Et on sait, ces fonds sont utilisés pour quoi?
Non. On n'a pas l'information, c'est ça. c'est ça. Donc, on donne ces 5 millions. On doit aussi avoir des locaux parce que là, avec la digitalisation, moi, je dirais qu'avec mon entreprise, je n'ai pas besoin de local. On fait tout dans le digital, par Internet et tout. Mais pour avoir cet agrément, il faut avoir des locaux, avoir un coffre-fort. Donc, c'est ça le principal problème que je rencontre. Parce que moi, je me dis que là, on est au 21e siècle. Donc, on devrait revoir ces méthodes-là pour voir comment faciliter aux jeunes entreprises qui se lancent dans le tourisme pour avoir un agrément sans passer par ces étapes-là.
C'est très obsolète parce que, comme tu le dis, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir des locaux physiques, like un bureau pour pouvoir fonctionner. Tu peux le faire aussi bien chez toi qu'à 1000 kilomètres de chez toi. Donc, c'est forcément qu'il y a des changements à apporter. Est-ce qu'il y a un collectif d'entrepreneurs qui sont dans le même secteur que toi, dans le tourisme, qui peuvent peut-être œuvrer et essayer de travailler avec le ministère pour changer ces critères. Est-ce que vous, il y a un collectif avec qui tu bosses peut-être, qui sont dans le même secteur?
Oui, il y a une association qui s'appelle le collectif des acteurs du tourisme du Sénégal. Donc, ça a été créé il y a un an. Donc, dans ce collectif-là, il y a des agences donc qui sont comme moi, des entreprises dans le tourisme, donc qui ne sont pas comme les grands. Donc, dans ce collectif, ils essaient donc tant bien que mal de voir et de trouver des solutions pour nous, pour qu'on puisse avoir cet agrément-là. Et il y a aussi d'autres combats qu'ils portent, mais j'avoue que c'est vraiment pas facile donc d'avoir des solutions par rapport à ça. Depuis un an, donc, on parle de ce sujet, mais il n'y a aucune solution qui n'a été dégagée par rapport à ça.
C'est-à-dire que vous avez eu accès à certaines personnes qui prennent les décisions au niveau du ministère, ou vous avez pu avoir quelqu'un qui vous écoute, ou...
Oui, alors une partie du collectif donc ont eu à effectuer donc une rencontre avec le ministère. Mmh. Et ils ont donc soulevé ce problème. Et comme on est au Sénégal, donc ils nous ont dit qu'ils vont nous revenir. Et voilà, c'est toujours en cours.
Du coup, ouais. Ok. Ouais, c'est quelque chose franchement à revoir. Parce que 5 millions, c'est pas tout le monde qui a 5 millions.
C'est ça.
5 millions, quand même, c'est pas énorme, mais c'est aussi une grosse somme. Donc après, faut qu'on sache, ces 5 millions-là, c'est utilisé pourquoi? Est-ce que ça aide à booster le tourisme et tout? Et puis, faut qu'on encourage, à mon avis, faut qu'on encourage les jeunes à pouvoir créer des entreprises, parce que pour moi, c'est un grand moyen de création d'emplois et de développement, parce qu'on le sait tous, beaucoup de jeunes vont à l'école au Sénégal, galèrent pour avoir leur diplôme, pour réussir, ils sortent et il y a aucune promesse de boulot, ils ont du mal à trouver du travail. Donc l'entrepreneuriat, c'est un moyen de s'en sortir. Il faut qu'on facilite la chose. Je sais que l'APIX, quand même, ils font certaines choses qui sont pas mal et donnent des conseils. Est-ce que toi, tu as eu à bénéficier de leurs services quand tu créais ta boîte et tout?
Non, pas du tout. Je ne me suis pas rapprochée de l'APIX. Voilà, parce que moi, j'ai créé mon entreprise à partir de la chambre de commerce.
D'accord.
Mais j'ai eu à faire une incubation, donc qui a été très, très intéressant pour moi, donc avec l'ADER, là, avec Académie et Sequoia. Mm-hmm. Donc, ils nous ont donné beaucoup de conseils par rapport à l'entreprise et moi, ça a été beaucoup intéressant pour moi.
C'est une organisation qui est au Sénégal, qui aide les jeunes entrepreneurs, ou c'est à l'étranger?
C'est au Sénégal. Donc, c'est une organisation pour les femmes entrepreneurs, pour les aider à accroître leur business et aussi à faire des levées de fonds.
Ah, ok. Et rappelle-moi le nom encore, pour que peut-être qu'il y a certaines femmes qui nous écoutent qui pourraient s'approcher d'eux.
WIC Academy.
WIC, W-I-C?
IC, voilà. Women Invest Club Academy.
Ah, ok. Et donc, ils offrent aussi de l'aide financière, ou c'est juste de la formation?
Ils font de la formation donc avec WIC Academy et aussi de l'aide financière avec WIC Capital.
D'accord, ok. Ok, je pense que toi, quand tu as créé ta boîte, tu bossais en même temps. Est-ce que aujourd'hui tu es à 100% entrepreneur, ou tu es toujours salarié, tu fais les deux en même temps?
Alors aujourd'hui, je suis à 100% entrepreneur, mais en même temps, je suis freelance, donc dans le community management. Donc j'ai deux clients à qui je gère leurs réseaux sociaux, donc en freelance. Voilà. Mais quand je créais Sonotrip, j'étais salariée en même temps. Mais après, quand j'ai commencé à avoir plus de clients et qu'il y avait plus d'excursions, donc j'ai dû abandonner mon travail pour pouvoir satisfaire cette demande.
Mm-hmm. Et pour toi, ça a été une décision facile, parce que quitter un travail qui t'apporte un revenu régulier tous les mois, il y a une certaine sécurité, l'entrepreneuriat, on sait que c'est pas c'est pas, ton revenu n'est pas garanti. C'était comment pour toi prendre cette décision de sauter le pas et d'aller à 100% avec Sonutrip? Est-ce que c'est quelque chose, une décision qui était dure ou comment c'était pour toi?
Alors moi, c'était pas une décision compliquée, vu que pour moi, quand je suis dans l'entrepreneuriat, ce qui est plus important pour moi, c'est la liberté que j'ai de mon agenda, donc par rapport à ce que je fais. Mais en même temps aussi, quand on est salarié, donc comme tu l'as dit, on a un revenu régulier, donc chaque mois, on perçoit un salaire, alors que dans l'entrepreneuriat, ce mois-ci, ça peut bien se passer, on reçoit beaucoup d'argent, l'autre mois non, donc c'est pas régulier. Donc mais pour moi ça va, ça allait vu que je n'avais pas trop de charges. Donc je me suis dit que je peux le faire là maintenant. Peut-être dans quelques années je ne pourrais pas le faire vu que peut-être j'aurai plus de charges, mais là comme j'en ai pas, donc je peux sauter le pas et commencer à développer mon entreprise.
D'accord. Et donc, il y a aussi ça, tes voyages au Sénégal, tu as dû voir plein de coins. Donc, pour toi, quelle est la région touristique qui est la moins connue au Sénégal et la plus sous-développée niveau tourisme, sous-exploitée, je vais dire? Est-ce qu'il y a une région que tu as découverte qui est magnifique et qu'on ne connaît pas du tout, en fait?
Alors, moi, il y a deux sites donc, qui me viennent en tête. Donc, déjà, le Sine Saloum. C'est vrai que dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par, par ce site-là. Ouais. C'est magnifique, mais c'est tellement grand que moi, je vois que les gens, ils n'exploitent ou ils ne vont découvrir qu'une seule partie. Alors qu'il y a d'autres parties du Sine Saloum, donc qui mériteraient vraiment qu'on aille visiter là-bas. Et je me disais aussi que ce serait bien aussi qu'on fasse là-bas d'autres attractions. Donc, ce serait pas mal. Aussi, vers la Casamance. Donc, la Casamance, c'est très, très grand, mais aussi, c'est très, très joli avec des îles magnifiques.
Moi, je pense que la Casamance aussi, enfin, si je prends mon exemple, il y a une certaine peur par rapport à bon, bah, je pense que ça a changé, mais je sais pas si ça, à 100%, c'est réglé. Moi, perso, je sais que, bon, de l'époque des problèmes, des rebelles et tout. Aujourd'hui, tu penses que la Casamance est à 100% safe? Je sais que c'est une région apparemment qui est magnifique. D'après les photos que je vois, moi, j'ai pas eu la chance d'y aller encore. Mais tu dirais que la région en général, c'est une région qui est devenue très safe, point de vue sécurité ou c'est quoi? Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, moi, je vais parler de mon expérience. Donc, j'ai eu à visiter la Casamance pour la première fois. Donc, c'était il y a 2 ans. Donc, j'étais partie toute seule. J'ai pris la route et j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient « Mais c'est pas sûr, pourquoi tu vas en Casamance toute seule ?» Mais moi, j'ai eu à visiter la Casamance presque, je pense, 5 fois. Mais je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et il y a beaucoup de choses à voir là-bas. Donc, moi, personnellement, je recommanderais à toutes les personnes de visiter la Casamance. Donc là, c'est devenu très, très touristique. C'est vrai qu'il y avait eu des choses qui se sont passées avant, mais pour moi, actuellement, c'est safe pour faire du tourisme. Donc, je le recommande à 100%.
Tu disais qu'il y avait des parties du Sine Saloum qui sont des îles du Saloum qui sont pas très connues. T'as des noms. Enfin, moi, je sais que je suis allée à Palmarin, donc Joal, Fadjoud, tout ça, Difer. C'est quel village, c'est parce que c'est des villages ou des petites villes que tu avais en tête quand tu disais qu'il y avait des endroits qui sont pas connus du tout?
Alors, je pensais à Marlodge, l'île de Marlodge, le village de Fimla aussi, et Simal. Et de l'autre côté aussi, il y a Toubakouta. Donc, qui est un peu plus loin, mais c'est magnifique là-bas.
Magnifique aussi. Donc,
voilà, Toubakouta, c'est très, très joli et je recommande aussi de visiter.
Super, super. Donc, toi, tu voyages toute seule souvent. Est-ce que tu te sens en sécurité partout? Est-ce qu'il y a, par exemple, tu as eu à avoir peut-être des incidents qui sont arrivés en voyageant seule, en allant au Maroc? Surtout le Maroc, pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... J'hésite à appeler ça racisme, mais ça peut être, on peut le mettre dans cette catégorie là aussi. Je trouve que quand tu es noire, femme noire, au Maroc, en tout cas à Marrakech. Ils se permettent beaucoup de, en anglais, ils appellent ça catcalling. Je sais pas en français si ça a un nom. Tu passes, on te dit, ah, chocolat, ah, des, mais de tous les noms. On m'a même appelé Michelle Obama, juste. Et puis très, bon, agressif, c'est un grand mot, mais genre, ils se permettent des choses. Est-ce que toi, tu as eu cette expérience-là en voyageant toute seule peut-être au Maroc ou dans un autre pays d'Afrique? Tu t'es sentie en sécurité partout ou il y a eu des moments où tu te sentais pas super, super safe?
Alors ici au Sénégal, dans tous les endroits que j'ai pu faire toute seule, je me sentais en sécurité. Mm-hmm. J'ai pu rencontrer voilà des personnes très gentilles. Les autres pays aussi que j'ai fait comme la Gambie, la Mauritanie et la Guinée-Bissau aussi, même chose. Et au Maroc, j'ai vécu la même chose à Marrakech. Donc voilà, on t'appelle par des petits noms, gazelle, des choses comme
non,
ça.
Non mais ça avait le don de m'énerver. Le don mm-hmm. de m'énerver.
Ils ont très l'habitude de faire ça. Mais moi, à chaque fois, j'en rigole et je pars. Mais des expériences racistes en tant que telles, j'en ai pas vécu, mais je connais quand même des personnes qui en ont vécu au Maroc.
Au Maroc, c'est sûr. Moi, je pense que le pays, dans mes expériences de voyage, le pays que j'ai trouvé le plus raciste, c'était la Tunisie. Like, si on me payait des millions, je ne visiterais plus jamais ce pays-là. Je sais pas si t'es déjà allé en Tunisie, mais plus jamais je gaspille mon argent pour aller dans ce pays. Mais bon, c'est pas bon le racisme est partout, mais bon, c'est malheureux que ce soit des pays parce qu'ils sont en Afrique, qu'ils le veuillent ou non. C'est des pays africains. Je suppose qu'ils préféraient être ne pas être africain, mais c'est dommage. Et donc toi avec bon, je sais que tu lances Sounoutrip Maroc. Quelle est ta vision pour Sounoutrip d'ici 5 ans par exemple? Où est-ce que tu aimerais être avec Sounoutrip? Quels sont les projets que tu aimerais réaliser?
Là actuellement pour Sounoutrip, j'aimerais bien que ça soit une agence africaine, donc qui va s'installer dans plusieurs pays africains, comme là pour le Maroc et voire peut-être en Côte d'Ivoire ou au Bénin, donc dans d'autres pays africains, mais en même temps élargir les offres, donc proposer d'autres offres, avoir aussi peut-être un rendez-vous annuel ici au Sénégal. Donc chaque année on sait que voilà, Sounoutrip va organiser tel événement et que tout le monde va attendre cet événement là. Donc c'est ça, et qu'on puisse propulser le tourisme du Sénégal, voilà, développer le tourisme local pour susciter voilà plus de Sénégalais pour qu'ils puissent visiter le pays.
D'accord. Donc, on sait que la création d'entreprise n'est pas facile, hein. Il y a plein de leçons à apprendre. Tu as dû faire face à des challenges. Tu as dû rencontrer certainement des personnes qui t'ont appris plein de choses. S'il y avait 2 leçons que tu devais retenir de toute cette expérience, tu ne t'y attendais pas, lesquelles seraient-elles?
Alors, la première leçon, je dirais que c'est vraiment la passion. Donc, il faut vraiment être passionné dans le domaine dans lequel on veut entreprendre pour s'en sortir. Parce que comme moi, par exemple, je suis passionnée de tourisme, de tout ce qui est découverte, mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment très, très difficile qu'on se le dise, parce que sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont tendance à montrer que l'entrepreneuriat, c'est rose, tout est beau, on vit une belle vie, voilà.
Belle vie, alors tu prends tes vacances quand tu veux.
Voilà, on se lève quand on veut, on a tendance à enjoliver l'entrepreneuriat, alors qu'il y a tellement de défis que l'on a au quotidien, tellement de problèmes que l'on rencontre, mais on n'en parle pas. Donc je dirais voilà, d'être vraiment passionné, parce que parfois on a tellement de problèmes que l'on veut tout lâcher, que l'on veut abandonner, retourner dans le salariat, voilà, être tranquille. Mais quand on est passionné, on va jamais abandonner, on va toujours se relever pour continuer ce que l'on fait, parce qu'on est amoureux de son projet. Donc pour moi, c'est vraiment la passion qui est la première chose à retenir. Et pour la deuxième chose, donc c'est la patience, parce que tout n'est pas bien donc à 100% en un jour. Comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, faut vraiment être patient et savoir qu'il y a un processus. Et voilà, se dire que voilà, dans un an ou bien dans deux ans, je pourrais y faire ça. Donc, qu'on se précipite pas et qu'on laisse les choses se faire parce que ça prend du temps. Donc, parce qu'on ne voit pas que telle ou telle personne a pu accomplir ça en quelques mois, qu'on se dise que moi, absolument, je dois accomplir ça aussi en quelques mois comme cette personne. Parce qu'on ne sait pas ce que cette personne a fait, les sacrifices que cette personne a fait depuis quand cette personne travaille. Donc, faut vraiment être patient pour vraiment avoir les fruits de son travail.
Absolument. Et je pense que les gens ont tendance à avoir un projet qui est parfaitement peaufiné, tout est parfait pour pouvoir démarrer. Moi, je dis qu'on peut démarrer, on va faire des erreurs, on les corrigera sur le chemin. De toute façon, toutes ces expériences vont nous aider à apprendre, à nous parfaire. Donc, c'est pas la peine d'attendre d'avoir quelque chose de parfait parce qu'on perd du temps. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Si tu devais donner un conseil à des jeunes femmes, des jeunes hommes comme toi qui veulent se lancer, que ce soit dans le secteur du tourisme ou dans un autre secteur, quel conseil personnellement leur donnerais-tu?
Alors, je dirais à ces personnes-là de ne jamais rien lâcher. Donc, de toujours se relever parce que c'est sûr, parfois on tombe à cause, voilà, de certains problèmes. Mais de toujours se relever et de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est très, très important de faire ce qu'on a envie de faire quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et aussi, comme tu le disais tout à l'heure, de ne pas, voilà, se dire que je dois avoir tout avant de me lancer. Donc, faut vraiment se dire que, voilà, je peux me lancer et en cours de route, je vais améliorer ça, je vais me parfaire et voilà, c'est tout un processus et il faudra poursuivre ce processus-là. Donc, parce que moi, je connais beaucoup de personnes donc, qui ont de beaux projets en tête, mais qui ne se sont pas lancés parce qu'ils se disent que faut que j'ai ça, ça, ça et ça. Donc, faut vraiment se lancer parce que actuellement, chacun a des idées et c'est la première personne qui se lance qui va bien évoluer.
Tout à fait. Une dernière petite question que j'ai oublié de te poser par rapport à ton entourage, ta famille, étant jeune, très jeune, ayant créé ton entreprise, tu as fait des études, tes parents ont certainement payé pour tes études. Et tu as décidé de choisir le chemin de l'entrepreneuriat et faire quelque chose de tout à fait différent. Quelle a été la réaction de tes parents et de ton entourage? Est-ce qu'ils t'ont soutenu ou est-ce que, voilà, ils ont exprimé leur désaccord?
C'est sûr que pour le début, ma mère était un peu peut-être préoccupée parce qu'elle voyait que dans l'entourage, il y a les jeunes de mon âge, donc finissaient leurs études et allaient travailler dans des grandes boîtes, dans des grandes entreprises et tout, et avaient un CDI, des choses comme ça, donc la stabilité, alors que moi, j'ai choisi un autre chemin, mais j'ai pu rassurer ma famille, donc pour leur montrer ce que je faisais et que vraiment je suis épanouie dedans. Et depuis lors, ils me soutiennent à 100%, que ça soit mes frères et sœurs, ma mère, voilà, toute ma famille me soutient à 100%. Quand ils savent que je dois aller en voyage, amener les clients, voilà, ils sont là, ils m'aident. Voilà, j'ai même mon frère avec qui je travaille aussi. Donc, ma famille est un grand soutien pour moi.
Ah bah c'est super, c'est une chance ça, c'est une chance. En tout cas, merci Maguette d'avoir pris le temps de venir nous parler. Je te souhaite beaucoup de succès avec Sunutrip, avec LinkU aussi, en espérant qu'on t'aura comme invité une autre fois pour parler peut-être de tes autres projets. En tout cas, beaucoup de succès et puis merci beaucoup.
Merci à toi Koudou pour l'invitation.
Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, je reçois Aminata Fati. Elle est basée sur la petite côte au Sénégal. Elle a créé une société immobilière qui s'appelle DEME, l'agence qui aide les Sénégalais de la diaspora à acquérir des biens immobiliers au Sénégal. J'aimerais également vous dire que le vendredi 21 avril, il n'y aura pas d'épisode parce que ce sera la fête de l'Aïd El-Fitr, la Corité. Donc, on va sauter le vendredi 21. L'épisode d'après sera publié le vendredi 28. Mais la semaine prochaine, on sera là avec Aminata Fati. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.